du Musée d'art contemporain. Monsieur Chris Hand, ici, à ma droite, qui est, lui, le directeur de la Ziggs Gallery et l'auteur d'un blog qu'on a appris aujourd'hui est très controversé, apparemment.
Ça, c'est ce que j'ai entendu.
C'est le deuxième volet d'un, de ce qu'on appelle « face-off » en anglais. C'était un peu comme ça la dernière fois. On a décidé cette fois-ci de faire ça plutôt en français qu'en anglais. L'autre fois, c'était plutôt en anglais. Chris va me poser des questions en anglais ou en français, comme ça lui tente, et moi je vais répondre en français. Mais on va avoir une section pour que vous puissiez nous poser des questions, vous, dans la langue que vous choisissez, autant que c'est en français ou en anglais, là, pas n'importe quelle langue.
Espagnol?
Malheureusement, non. c'est pas possible pour nous. Alors, Chris, je veux y aller un peu tranquillement parce qu'il y a quand même des gens qui attendent toujours pour entrer. Ça, les places réservées, c'est des gens qui ont réservé. C'est pas des gens qui tardent à venir. Ils attendent, donnent leur nom et tout. Le triage est un peu long, mais on va y aller quand même. Alors, Chris, give it your best shot.
Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et merci de venir. Oui, mon première question, alors qu'on a parlé il y a 2 semaines sur le vision et vos idées sur le musée, dont l'article dans Vie des Arts, pour, quoi, quand Marcel Brisebois a fait son retrait, il a dit qu'il a pensé que le musée est une place pour le savoir, la réflexion et la contemplation. Qu'est-ce que vous pensez que le musée devrait être?
Je crois que c'est toutes ces choses-là. En plus, c'est un lieu de plaisir aussi. Moi, je suis devenu amateur d'art par le pur plaisir. Est-ce que tout le monde nous entend d'ailleurs, en parlant de plaisir là? Est-ce que ça vous plaît de nous entendre jusqu'ici? Oui, c'est la seule chose qui manque là-dedans pour moi. Mais l'art est tellement vaste, c'est tellement énorme que c'est difficile de tout réduire ça, résumer ça là, dans une petite formule. Les gens viennent pour différentes raisons. Hein. Alors, on veut surtout servir à tous les gens qui sont amateurs d'art ou qui risquent d'être amateurs d'art, qui se sentent confortables au musée et qui ont envie de retourner souvent. Okay.
Parce que pour moi, l'idée du réflexion et contemplation, ça dit que c'est comme une église et c'est une place où il y a de l'autorité. Et alors que vous...
Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Alors écoute, moi j'étais à le musée des Beaux-Arts. Bon, ça s'appelait pas comme ça. C'est le National Gallery of Art à Washington. J'étais devant un tableau, puis j'essayais de concentrer. Et les gardiens se parlaient de la partie de football qu'ils avaient vue à la télévision. Un qui était à l'autre bout de la salle et l'autre par là-bas. Puis ils se criaient comme ça. Puis on était plusieurs dans la galerie. Bon, à un moment donné, je suis allé dire, écoutez, là, j'essaie de concentrer. Je suis venu pour voir vos tableaux, pas pour vous entendre parler. 2 minutes plus tard, je vois leur patron avec un fusil. Imagine-toi, la main sur son fusil. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Bon, il se donne que moi, j'étais là, justement, pour déjeuner avec le conservateur de l'art contemporain de la National Gallery, et j'ai dit ça. J'ai dit, voudrais-tu bien écrire une lettre au directeur, faire une plainte, parce que nous, on en parle de ça, ce problème, depuis toujours, les gardiens qui respectent pas le silence, c'est-à-dire qu'ils se penchent chez eux et qui comprennent pas pourquoi les gens sont là. Alors moi, j'y tiens, l'idée de réflexion, là, contemplation. Non, c'est pas une église, mais quand même, faut donner un espace aux gens, faut donner la chance aux gens d'apprécier les œuvres et de pas être obligés d'entendre quelque chose. Bon, il y a des conférences guidées. Des fois, on n'aime pas trop ça. On change de galerie. Mais quand les gardiens respectent pas, c'est pas notre problème ici. C'est le problème là-bas. Alors, non, je suis pas d'accord avec toi sur ça. Il faut vraiment respecter l'expérience de chacun.
Oui, ça c'est la chose pour moi. C'est que l'expérience du musée comme musée, c'est une chose où tu fermes la porte pour plusieurs mondes parce qu'ils disent, oh, ça va casser mon tête. Il y a plusieurs personnes qui ont des idées différentes à comment ils peuvent trouver le plaisir des œuvres. Et pour moi, comme ce soir, de trouver une autre méthode pour ouvrir les portes du musée à des gens qui ne sont pas habitués à venir au musée, ça, d'après moi, c'est une bonne chose. Mais l'idée du contemplation comme le musée a été, comme l'idée du musée est, ça, c'est où, oui, nos divisions encore.
Oui, faut pas. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut pas perdre son public actuel pour pouvoir trouver un public virtuel. Alors, il faut respecter les conditions idéales le plus possible, sans empêcher de faire un nouveau public, d'attirer les gens. Je ne vois pas vraiment ce que tu dis là. Ouais,
mais comme quand tu étais au Brooklyn Museum,
oui.
Tu as parlé, tu as vu les First Fridays.
C'était le First Saturdays.
Saturdays, je m'excuse. Et dans ce cas, ça, c'est où le musée ouvre leurs portes à un grand public, un Great Unwashed.
Très grand public,
et
d'ailleurs.
Dans ce cas, c'est possible de parler dans des salles, dans des expositions. Mm-hmm. Et ça, pour moi, c'est une très bonne idée. Ce n'est pas nécessaire d'avoir ça tout le temps, mais une fois chaque mois.
Oui, je suis d'accord avec ça. On aimerait tenter quelque chose. On a quand même... Tous les mercredis soirs, comme celui-ci, là, où on est très achalandé les mercredis soirs. Les gens viennent les mercredis soirs, comme ce soir, parce que c'est gratuit. Après, bon, l'entrée est gratuite. Mais le First Saturdays à Brooklyn, il y a des concerts, il y a des films, il y a des présentations. On danse. On se sert vraiment du musée comme un lieu public, un agora pour tout le monde. Et on peut imaginer voir 10 000 personnes dans une seule journée dans le musée, chose qu'on a déjà vue ici, je dois dire. Hein. La nuit blanche, là, pendant Montréal en lumière, on fait ça une fois par année. Mais à Brooklyn, ils font ça 10 fois par année, c'est-à-dire une fois par mois normalement. Ouais. Et c'est, bon, si vous connaissez Brooklyn, c'est bariolé incroyablement. C'est pour merveilleux moi, ça... de voir une diversité d'ethnies et des gens, des jeunes qui viennent de Manhattan parce que ça coûte trois fois rien pour s'amuser. Et c'est extraordinaire. C'est complètement différent. Mais c'est un musée énorme aussi. C'est vaste, ce musée. Il y a de la place pour 10 000 personnes. Mais je ne veux pas dire que ce n'est pas une chose qu'on ferait ici. Là. On l'a déjà fait et on aimerait le faire. On en a parlé. Est-ce qu'on devrait avoir un 5 à 7 tous les vendredis soirs ici, par exemple?
Oui.
Au rez-de-chaussée. On en a parlé.
C'est une bonne idée pour essayer, pour voir qu'est-ce qui se passe. De ça, alors que c'est une 5 à 7, tu peux avoir des conversations avec des gens qui viennent seulement pour ça ou des gens qui sont habitués au musée qui viennent et disent « Non, ça me tente pas, je déteste. » Mais d'avoir la conversation privée avec une gens spécifique parce que c'est leur musée, ça, c'est une chose que j'adore chez moi et que je parle à chaque personne qui vient pour voir l'exposition que j'ai. D'avoir un 5 à 7 pendant deux mois, c'est un temps limité. Et tu peux avoir beaucoup, beaucoup de feedback.
Oui, mais je ne sais pas vraiment ce que tu me dis. Là. Est-ce que tu penses que moi, je devrais être dans les galeries en train d'interpeller les gens? Ou...
Non. Si tu veux. Mais pour
chose
moi,
que je fais de temps en temps, là, mais je ne veux pas les déranger.
Pour avoir un 5 à 7 régulier, une fois par mois, juste pour ouvrir le musée à des gens qui ne sont pas habitués à venir parce qu'ils pensent que c'est comme une église.
Bon, on peut vous poser la question. Si nous, on faisait un 5 à 7 ici au Musée d'art contemporain, est-ce que ça devrait être un vendredi soir, un jeudi soir, une fois par semaine, une fois par mois? Est-ce que ce serait quelque chose qui risquerait de vous attirer, vous? Oui? Ça nous fait un événement de plus cette semaine.
OK. Je pense qu'on a terminé ça ou on a parlé sur ça le plus qu'on peut. Oui, juste pour mon information en plus, c'était quoi en anglais, the first show that you greenlighted here? Et est-ce que tu peux expliquer le procédure?
Bon, greenlighted, ça veut dire la première proposition d'exposition où j'ai dit oui, absolument. Une nouvelle exposition qui n'était pas déjà à l'horaire, c'est-à-dire qui n'a pas été choisie ou entérinée par mon prédécesseur. Paulette, est-ce que tu es là? Est-ce que c'est peut-être... c'était pas Bruce Nauman? Je pense que c'est Bruce Nauman. Oui, ça se peut que ça, c'est trois expositions de Bruce Nauman en même temps là, pour 2007. Bon, voilà. Il n'y a plus de surprise. On va exposer Bruce Nauman en 2007.
Est-ce que tu peux expliquer le process qu'il a passé pour avoir les trois expositions de Bruce Nauman?
Ben, c'est-à-dire que nous sommes plusieurs amateurs de Bruce Nauman ici au musée. Et on savait qu'il y avait cette exposition. Les musées s'envoient des propositions d'exposition un peu partout. Nous, on a reçu ça et on connaissait d'autres œuvres et on avait pensé qu'on pourrait peut-être bonifier ça avec d'autres événements au musée. Et on a réfléchi à ça et finalement, on a décidé. Et on l'a proposé à ce qui existait à l'époque. C'était notre comité de programmation. chose qui n'existe plus maintenant. On est passé à un autre format, une autre façon d'avoir l'approbation pour notre programme du conseil d'administration. Et eux aussi, ils étaient très, très enthousiastes pour cette exposition. C'est un peu le processus, là. Nous, on est c'est un peu comme ça dans la plupart des musées. C'est l'équipe professionnelle, c'est les professionnels qui proposent une programmation. On a toujours en tête une on veut que ce soit très divers, oui, justement, qu'il y ait des œuvres, des expositions qui vont plaire à le plus grand public possible, mais un vrai public d'art contemporain, là. Bon, je veux pas dire qu'on le ferait jamais, mais moi, de toute façon, ça m'intéresse pas faire des expositions de motocyclettes, genre... on va rester dans le domaine de l'art contemporain.
Pas de problème
mais
avec ça.
Mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Alors, c'était quelqu'un, Paulette, ou quelqu'un comme elle,
un conservateur qui a une idée pour une exposition, en parle à la conservatrice en chef, qui dit « Ah, c'est pas mal, on va en parler au directeur. » Et on en parle, on voit si c'est possible ou pas. Et nous, on reçoit des propositions d'exposition de d'autres musées, ceux qu'on pour des plages qu'on n'a pas déjà bloquées avec nos propres expositions. Et avec toujours en tête... une diversité de
et dans ce cas après que tu as dit que oui c'est une bonne idée à suivre après que tu as dit oui il faut aller au
on dit jamais oui tout de suite il faut savoir si on a l'argent il faut vraiment il faut se donner le temps de voir s'il y a pas d'autre chose intéressante qui pourrait être plus intéressant une exposition genre blockbuster qui va nous coûter trois fois rien qui du jour au lendemain arrive comme ça et non la seule place qu'on peut le mettre c'est sur dans cette plage là alors c'est jamais évident on dit jamais oui on dit ce qu'on dit on dit non des fois quand c'est clair non ça on le ferait jamais c'est pas possible mais vraiment on veut garder par exemple, on veut des expositions de la relève, on veut des artistes dont on a entendu parler ici à Montréal, qu'on connaît pas sur la scène internationale. On a des artistes avec des carrières déjà bien entamées, qu'on connaît très bien, et puis c'est le temps de les exposer, c'est le bon moment, là. Des rétrospectives qu'il faut faire, justement. Je crois pas qu'on l'a annoncé, mais on va organiser une rétrospective de Claude Tousignan pour 2008. D'ailleurs, moi, je vais travailler là-dessus personnellement aussi, parce que c'est un artiste que j'admire depuis mon enfance, d'ailleurs. Des choses comme ça, alors.
Et après ça allait au conseil d'administration pour le comité.
On présente annuellement maintenant la nouvelle procédure, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas commencé ça encore. La nouvelle procédure, c'est de parler de les expositions qu'on va faire l'année prochaine au conseil d'administration, où normalement, c'est comme 2 ans à l'avance. On est en train de parler de 2008 actuellement. Et c'est pour leur approbation générale. Et typiquement, dans les autres musées où j'ai travaillé, normalement, il n'y a pas vraiment de problème.
OK. Est-ce qu'il y a des autres méthodes où c'est possible pour quelqu'un sur le conseil d'administration de faire suggestion d'une exposition qu'eux, ils savent?
Oui, de temps en temps, ils le font. Si c'est intéressant, c'est une chose qu'on peut considérer. Ou si c'est pas intéressant, on explique pourquoi. Là, oui, c'est clair. Mais c'est nous qui assumons la responsabilité. De rédiger le programme.
Okay.
C'est normal.
Et quand c'est une artiste locale, c'est quoi les différences de juste de voir, il y a une exposition qui, il y a une possibilité qui peut venir ici, quand un conservateur dit, oh, ça c'est un artiste qui me frappe.
Nous, on préfère, si c'est un artiste d'ici, on préfère faire l'exposition nous-mêmes. Alors, si quelqu'un va faire, bon, si Vancouver nous proposait de prendre leur rétrospective de Claude Tousignan, ça ne nous intéresserait pas trop.
Non, c'est pas mon question. Oui, alors qu'il y a, pour moi, il y a deux volets. Il y a des expositions qui étaient suggérées des autres musées. Ça, je comprends. Mais des artistes d'ici.
Oui.
Que vous faites vous-même pour faire l'exposition. Est-ce qu'il y a des différences entre les méthodes qui sont acceptées? Ou est-ce que c'est encore, OK, c'est un conservateur qui réalise, oh, ça c'est un artiste qui je capote. Et dans ce cas, c'est la même méthode. Il parle à toi, puis après ça, vous discutez. Puis après ça, tu allais au conseil d'administration. Ça, c'est combien ça va coûter? Est-ce que c'est la même méthode ou est-ce qu'il y a des différences?
Bon, d'abord, nos conservateurs capotent pas trop souvent, là, juste pour la petite histoire. J'ai pas vraiment compris. On reçoit des propositions d'exposition de d'autres musées. On reçoit des propositions d'exposition d'artistes constamment aussi. Des fois, on est d'accord que c'est une bonne idée. Très souvent, typiquement, c'est nous qui sommes bon, c'est le temps d'aller approcher cet artiste-là ou de parler à la galeriste mm-hmm. d'abord, de dire, ça nous intéresserait de faire une exposition personnelle de cet artiste-là. Mm-hmm. On croit que c'est le bon moment. Et c'est les œuvres des 5 dernières années où c'est toute une rétrospective, mm-hmm. où voilà, et il faut trouver l'argent pour le catalogue mm-hmm. parce qu'on veut faire ça comme mm-hmm. il faut et tout. On reçoit constamment des dossiers d'artistes et des propositions d'artistes. Je rencontre des artistes mm-hmm. qui veulent me voir et tout ça. C'est important de faire ça parce que moi, j'arrive, hein, ça fait un an que je suis là. Alors, ça me permet de connaître ces artistes-là, de connaître leur travail et de parler un peu des idées qu'ils ont. Mais on a nos propres idées sur qu'est-ce qu'on veut faire jusqu'à la Saint-Glinglin. Et puis, normalement, on sait où on s'en va en général. Et on n'aime pas ça se répéter, il y a ça mm-hmm. aussi. Alors, c'est comme ça, c'est un peu instinctuel.
OK. Je trouve que c'est plusieurs personnes, c'est, pour moi, c'est pas instinctuel, c'est plus la pensée des groupes.
Je dirais oui et je dirais non. Il faut dire que, par exemple, la question que tu m'avais posée la dernière fois, est-ce que c'est moi qui organisais tout le programme et que je disais, bon, toi, tu vas faire tel, toi, tu vas faire cette expo-là? Non, ça fonctionne pas mmh. comme ça. Et d'ailleurs, de temps en temps, on peut dire, écoutez, on a une proposition d'exposition qui nous paraît assez intéressant pour Montréal. Est-ce que toi, conservateur X, ça t'intéresserait? Mmh. Ben oui, j'adore ça, c'est une très bonne idée. Oui, absolument, je vais travailler là-dessus. Ou non, pas vraiment, c'est pas mon genre, j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter à mmh. ça. On peut voir s'il y a un autre conservateur, mais si on peut pas trouver quelqu'un qui veut le faire, ben là, on se dit, ben quand même, s'il y a personne à l'interne qui s'intéresse à ça autant que moi, ou autant que Paulette, ou autant que l'autre conservateur mmh. avec qui j'ai eu cette idée qui peut pas le faire, ben on laisse tomber, hein. C'est pas la peine de forcer, on n'est pas, on donne pas la tâche au conservateur, mmh. tiens, tu vas faire ça, puis tais-toi. Non, ça se passe pas comme ça, parce qu'on veut que ça soit fait d'une façon correcte. On veut vraiment que le conservateur soit passionné, mmh. Qu'il ait quelque chose à dire, qu'il ait ajouté justement ce travail.
OK. Et pour, alors quand on parle des choses qui se passent ici au musée, pour les expositions, c'est un côté. Les acquisitions sont un autre côté.
Oui.
Je pense que la plupart de vos acquisitions sont les dons.
Est-ce que oui, là, c'est pas mal triste, là. C'est moins gay, cette partie-là.
Est-ce que pour accepter une don, pour décider qu'il faut acheter quelque chose?
Acheter quelque chose, c'est autre chose. Mais ça nous arrive rarement parce que c'est seulement à la fin de l'année fiscale. Mm-hmm. Si tout le monde a travaillé comme du monde, il nous reste des poussières à la fin de l'année fiscale mm-hmm. et là, on peut agir. Mais pour les dons, non, on veut s'assurer que non, c'est pas la peine de dire oui. Toujours pour des œuvres, bon, j'ai fait ça en 56, maintenant j'en ai 4 autres de 57 que tu pourras avoir. Non, c'est pas quand même l'Arche de Noé là pour il faut s'il y a des carrières très importantes à Montréal, mm-hmm. on veut absolument pouvoir dire nous si on voulait monter une exposition de cet artiste, mm-hmm. on a tout ce qu'il faut dans notre collection. Ça c'est bien. Mm-hmm. Mais on n'accepte pas des choses qu'on pourrait pas montrer, par exemple. À un moment donné, les réserves sont pleines. Nos réserves sont pleines. Nous, on s'est amusé, avant que je suis arrivé ici, là, on s'est amusé à acheter acquérir des installations qui prennent beaucoup, beaucoup de place parce qu'on avait beaucoup de place. Chose géniale, c'est qu'on est maintenant un des rares musées avec une collection extraordinaire en installations. Mmh. Mais ça prend beaucoup de place. Alors non, il faut s'assurer que quand on dit oui, c'est pour des choses qu'on veut montrer. Là.
Okay.
Ou c'est pour des choses qui ont une valeur patrimoniale très importante, même si on peut pas les montrer demain ou même dans 5 ans, c'est quand même quelque chose qu'il faut protéger et que ça vaut la peine de dire oui.
Est-ce qu'il y a une différence quand le don est fait par l'artiste ou par un collectionneur?
Non.
OK, parce que de ce que vous avez dit...
Je ne sais pas. Dans quel sens tu veux dire qu'il y a une différence?
Oui, de ce que vous avez juste dit, moi j'ai réalisé que la plupart des dons, ou j'ai l'idée que la plupart des dons sont faits par les artistes eux-mêmes. Et on a déjà parlé que c'est pas une gronde.
Oui, c'est ça qui m'attriste, moi, personnellement. Ouais. Je crois que ça serait beaucoup plus intéressant pour le musée, mm-hmm. pour la communauté montréalaise et surtout pour les artistes. Mm-hmm. Si nous, on était un acteur important sur le marché, on mm-hmm. pourrait dire, donne-moi les poches, je te l'achète. Mm-hmm. Ça serait bien plus intéressant, là, mais on n'a pas les moyens pour le moment.
Ouais, ça, je comprends pas. Parce que d'accepter des dons, tu donnais une reçue du taxe. Et tu le demandais heureuse.
Oui, mais c'est plus intéressant pour nous de pouvoir dire, bon, quand on rentre dans la galerie, on dit, la nouvelle exposition d'artiste X. On a nommé trop d'artistes l'autre fois, j'ai pas aimé ça. Okay. Alors cette fois-ci, on va rester très... le musée des Beaux... La galerie se dit au collectionneur qui vient le samedi matin, bon, il reste pas tant de choses que ça, malheureusement, là. Comme je t'ai dit, il fallait venir vendredi, là. Parce que le Musée des Beaux-Arts, il a pris celui-là. Le Musée d'Art Contemporain, il a pris celui-là. Toronto est venu, puis, bon, il reste deux œuvres. Faudrait choisir de ces deux-là. Ben, ça fait trembler les collectionneurs parce qu'ils se disent, mon Dieu Seigneur, c'est toutes des musées qui ont acheté ça. Mais si les musées avaient les moyens de le faire, ça serait très intéressant et ça pourrait un peu ranimer notre marché, qui, à mon avis, est assez faible, merci. Et qui devrait être beaucoup plus fort. Là. Je crois que les Canadiens doivent participer d'une façon directe et active
mais dans leur culture. T'as manqué mon question probablement parce que je suis bloke.
C'est peut-être pour ça. Tu peux me la poser en anglais, hein, comme l'autre fois.
Non, je vais essayer une dernière fois en français. Si un collectionneur vous donne une œuvre, ça c'est la chose. C'est pas que l'artiste le donne, mais le collectionneur vous donne. Et pour moi, ça c'est une méthode pour monter le méthode à les collectionneurs si le musée accepte des choses. Et c'est pour voir s'il y a une différence quand un artiste donne une œuvre au musée et si un collectionneur donne une œuvre au musée.
Mais quelle différence me parles-tu? Une différence éthique ou une différence fiscale ou quelle différence? Là? Du moment qu'on reçoit des œuvres importantes pour notre collection, qu'on puisse dire qu'on est... qu'on a la collection publique la plus importante d'art contemporain au Canada. Moi, je suis heureux. Là. Je suis malheureux qu'on puisse pas dépenser plus d'argent pour acheter des œuvres, pour pouvoir faire vivre les artistes un peu plus. Ça me dérange. Yeah. Mais du moment que les gens nous proposent des œuvres importantes, que ça vienne de l'artiste ou que ça vienne d'un collectionneur,
pour moi, c'est une chose plus. Si un artiste, moi, je fais pas une différence entre une œuvre importante. C'est juste une œuvre. Et dans ce cas, avec une artiste, il faut
si
faire...
Si c'est juste une œuvre, on la veut pas. Là.
Mais si un collectionneur...
Il faut que ce soit une œuvre quand même qui vaut la peine. Et on dit non très, très souvent, d'ailleurs. C'est pas un oui automatique. Okay. Et le système fait en sorte que nous, on doit faire preuve à la Commission des biens culturels à Ottawa que c'est important pour nous d'avoir accepté ce don.
Ça, c'est une chose que je comprends. Ça, c'est une chose pour dire non à un artiste. Je réalise que vous dire non probablement à 90% des artistes qui essaient de vous donner quelque chose.
Oh, mais... c'est pas vrai parce qu'il y a pas tant d'artistes que ça avec qui les proposent des dons. Bon,
la réponse que j'étais en train d'essayer de chercher, c'était avec les collectionneurs. Est-ce que c'est plus souvent que tu acceptes des choses des collectionneurs alors qu'ils sont des collectionneurs, peut-être parce qu'ils sont sur le des board of directors. Est-ce que c'est quoi 90% qui sont acceptés.
Je pourrais pas te le dire là, je pense pas que c'est non. Ah, tu penses que si c'est plus si un le collectionneur a les plus fortes chances que le musée dit
oui
que si c'est un artiste qui nous propose.
Oui.
Ben oui, ça dépend de toutes sortes d'affaires. Nous, de toute façon, on doit faire preuve de l'importance de cette œuvre à la commission des biens culturels.
Okay.
Dans les deux cas. Et on doit regarder très bien, est-ce que est-ce que c'est important pour nous d'avoir cette œuvre? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous donne des choses régulièrement, des choses extraordinaires? Et peut-être c'est quelque chose qui est pas le plus important tableau imaginable qu'on pourrait avoir, mais c'est un bon tableau qui vaut la peine de dire oui. Ben écoute, faut pas être innocent là. Non, mais les artistes qui nous proposent des œuvres sont pas plusieurs, il faut dire. Ils préfèrent qu'on leur achète des œuvres, qui est normal, à mon avis. Ils sont pas si nombreux que ça. Et ceux à qui on dit oui, c'est parce que soit on les a exposés, c'est des carrières qu'on suit, qu'on estime beaucoup, et que, justement, c'est une œuvre d'une période de leur carrière qu'on n'a pas dans la collection, et qu'on pense que vraiment, ça manque à notre collection, parce qu'on veut être compréhensif aussi, c'est-à-dire pas complet, c'est quel mot que je cherche là, moi? On veut pouvoir, justement comme j'ai dit avant, pouvoir dire que nous, on peut raconter l'histoire de cette carrière du début à la fin, pas la toute début, là, les œuvres d'enfance, on nous propose ça de temps en temps. Non.
C'est pas nécessaire d'aller au Subway pour manger ce soir.
Oui, bon, tu vas pas me répéter ça, là.
Non.
Chris, l'autre fois, m'avait proposé que les artistes devraient exposer dans le Subway. On a dit non, que c'est pas quelque chose qu'on
c'est plus que...
Pas le métro, le Subway où on vend des sandwichs.
Je suis très contente qu'ici, à Montréal, il expose à un Subway.
Oui.
OK. Mais de parler d'une chose qu'on a parlé il y a deux semaines. Mm-hmm. Comment tu peux traduire heritage speculation?
Ah ben là, ça c'est une... Bon, heritage speculation. La spéculation patrimoniale, c'est ça là? Mm-hmm. Ben c'est-à-dire que moi j'avais... Bon, il faut... Pour la petite histoire, j'avais dit, je crois, que c'était lors d'un colloque à Québec, de l'SMQ, la Société des musiques québécois, que nous, en art contemporain, on fait de la spéculation patrimoniale, c'est-à-dire que nous croyons que les choix qu'on fait aujourd'hui pour notre collection sont des choix pour lesquels on va être remercié dans 20 ans. Parce que on spécule dans le sens que ça va être important, on croit que c'est important aujourd'hui, on croit que ça va être important en 20 ans. Mm-hmm. C'est quand même spéculatif, on peut pas le savoir si ça va être important.
Ouais, pour moi, parce que...
C'est des fois, c'est des carrières, finalement, où, bon, ça s'est éteint assez vite, ils ont décidé de faire autre chose, et finalement, nous, comme culture, on est passé à autre chose, on se retrouve avec ça dans les réserves pendant 50 ans, il y a personne qui veut l'emprunter, on l'a jamais exposé. Bon, on s'est un peu planté, là.
Dans ce cas, se vendre, oui.
Comment?
Dans ce cas, se vendre.
Ben non, nous, on fait pas ça. Par contre, on a fait ça à Brooklyn. Mm-hmm. On a fait ça plusieurs fois à Brooklyn. On attend le décès de l'artiste, normalement, parce que c'est pas gentil.
Mais pour moi, les choses sur les spéculations patrimoniales.
Oui.
Et je pense ça, c'est que, oui, tu as choisi une artiste mi-carrière au relève de leur carrière. Et tu as décidé au début que tu vas suivre tes droits.
Des fois, c'est à la fin qu'on a réalisé, hein. C'est pas toujours au début, des fois c'est au milieu, des fois c'est à la fin, des fois c'est pas du tout, puis c'est trop tard, comme dans le cas de Jean-Michel Basquiat, qui a jamais été acquis par un musée de son vivant.
Je parle des artistes québécois.
Oui, pardon, excuse-moi.
Et dans ce cas, l'instant que l'artiste a le marque que oui, le musée les collecte, dans ce cas, ça c'est où le reste de leur carrière, oui, c'est possible de dire, OK, ça, c'est pas une œuvre très, très bonne. Celle-ci, c'est très, très bonne.
Mais il y a des périodes dans les carrières d'artistes, ça arrive souvent, où pendant un bon 10-15 ans, là, ils se répétaient, c'est pas tellement intéressant. On dit, mais qu'est-ce qui arrive? Mm-hmm. Il était tellement bon à 25 ans.
Ouais, est-ce qu'il y a des œuvres dont...
Ça arrive, ça aussi, c'est normal. Hein? Alors, ouais. C'est pas la peine. Parce qu'on a trouvé ça génial à 30 ans, ça veut pas dire que c'est toujours extraordinaire à 50 ans. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, mon Dieu, qu'il se casse la tête longtemps, lui, pour avoir une carrière. Puis, boum, mon Dieu, c'est génial. Ça a valu la peine de se casser la tête, cet artiste-là. Il aboutit à quelque chose d'extraordinaire, ou elle... ça aussi, il n'y a pas de formule. Hein.
Alors, je m'excuse, mais je vais demander des noms des artistes.
Non, je ne donne pas.
Parce que pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a tombé du canon.
Ah oui.
Ici au Québec?
Ah ben ça, je pourrais pas vous le dire. Là, parce
on
que
parle du Québec.
Il faut dire que moi, bon, j'ai quitté Montréal il y a 20 ans, ça fait un an que je suis ici. Je ne peux pas vraiment... Je suis entouré par experts d'art québécois, mais c'est pas moi l'expert en chef.
Okay.
Alors, je pourrais pas te nommer un artiste qui s'est cassé la gueule à 40 ans. D'ailleurs, c'est pas gentil de le faire, je le ferai pas. Ouais.
OK, fine. OK, pour suivre à un autre thème que vous avez fait... l'exportation et l'importation de l'art. Parce que ça, c'est une chose que moi, vraiment, je comprends pas vos idées que l'art est pas exporté, il est importé.
Oui.
Est-ce que tu peux l'expliquer à moi? Parce que c'est pas clair.
C'est-à-dire que, c'est pas la même chose que du blé ou des chaises. C'est pas un produit comme ça. C'est un produit culturel. Et ma petite formule, je dis souvent, l'art n'est jamais exporté, il est toujours importé. C'est-à-dire qu'il faut créer une demande à l'étranger pour ce qu'on fait ici. Mais la demande, il faut qu'elle commence ici. Là, il faut que les Québécois se disent, mon Dieu, qu'on est tellement satisfaits par nos artistes. C'est extraordinaire ce qui se passe ici, que les gens se tiraillent pour avoir les œuvres, que les publics font la queue pendant les heures pour entrer au musée pour voir les rétrospectives des artistes d'ici.
Il faut
avoir un sac à sel. Peut-être, on peut faire un semblant. Les gens, ils attendent la bière dans la rue. Et nous, on pensait que c'était pour l'expo. Mais non. Mais c'est ça. Mm-hmm. Et c'est, ça, c'est très lié au phénomène marchand, ça. Mm-hmm. Hein? Et c'est que, faut dire que ça, c'est un peu mon côté d'amertume d'avoir fait la promotion de l'art canadien à l'étranger pendant très longtemps. Et je me cassais la tête, je comprenais pas qu'est-ce qui allait pas. Et tout d'un coup, j'ai réalisé ce qui va pas, c'est que y a pas assez de buzz ici chez nous. Mm-hmm. Le buzz, il faut que ça commence ici.
Oui.
Nous, on a tendance à penser, c'est peut-être pas très bon si les étrangers aiment pas ça. Ben ça, ça peut marcher dans le domaine de la chanson, peut-être, ou dans d'autres domaines. Mm-hmm. Mais dans le domaine de l'art visuel, les artistes, soit ils quittent. Où nous, on crée leur célébrité chez nous, et les autres vont peut-être faire attention. Mais on peut pas exporter de l'art comme on exporte du blé.
Non, ça, OK. Maintenant, je comprends ce que vous dites, qu'on c'est pas exportable. Mais pour moi, l'idée, c'est de prendre une exposition qui a été faite ici et exporte-le ailleurs.
Ah ben oui, c'est la même chose. On le connaît pas, ton artiste, Marc. T'es bien gentil, là, mais moi, j'ai pas de public pour ça, là. Toi, t'as voulu prendre mon expo. Mais d'ailleurs, ça marche assez bien, je dois dire. J'ai appris une bonne nouvelle. On a organisé une exposition, de notre collection. C'était pas une exposition particulière. On a déjà trouvé 11 points de chute au Canada pour cette exposition.
Okay.
C'est pas n'importe quoi, quand même, le Canada, hein, même si c'est pas, on l'a pas vendu à la Lituanie. Mais est-ce que c'est intéressant pour toi d'aller exposer en Lituanie ou en...
Pour moi, l'idée, c'est une artiste, spécialement une artiste encore vivante, qui est au milieu de leur carrière, mais ils sont arrêtés par le glass ceiling d'être une artiste québécoise, une artiste canadienne, d'aller en Lituanie, Yougoslavie, Brésil, et de retourner ici. Il va retourner comme une roi. Peut-être pas le roi, mais un roi. Et dans ce cas, ça, c'est une méthode pour créer une buzz sur l'artiste.
T'es bien naïf, toi. Oui, on dort. Toujours. Ça se passe pas comme ça. C'est pas parce que quelqu'un a fait un tabac en Lituanie qu'on va commencer à s'intéresser à son travail à Montréal on s'intéressait pas avant.
Non, l'expo a passé à Lituanie. Et en Lituanie, il a battu toutes sortes des records.
Oui, mais ça coûte cher envoyer des expositions. Nous, on a jamais des... La Lituanie nous téléphone pas, nous envoie pas des courriels. Envoyez-nous donc des propositions d'exposition parce qu'ils savent qu'on va pas subventionner le transport de ces œuvres et l'assurance et envoyer quelqu'un pour s'assurer qu'ils font des choses correctement. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, là. Eux, ils s'adressent à l'Allemagne qui est à côté, mais pas au Canada, nécessairement.
Bon, pour moi, si c'est pas Lituanie, c'est une méthode de trouver une manière pour avoir l'assurance, pour avoir le transport. Alors que...
C'est des choses qu'on fait, pas nous, nécessairement, mais c'est des choses que les gouvernements font et certaines agences gouvernementaux qui font de temps en temps.
Quel gouvernement?
Le gouvernement québécois, le gouvernement canadien. Oui, ça existe. C'est peut-être on en fait moins, mais je me souviens qu'on en faisait beaucoup de ça, les années 70 et 80.
On
n'est
pas ici pour... Ouais, on peut dire des mauvaises choses sur les gouvernements.
Mais moi, ce qui me dérange là-dedans, et quand je faisais mon travail à Paris de représenter les artistes canadiens à Paris, c'est que de temps en temps, c'est intéressant pour le gouvernement qu'il y ait une exposition d'art canadien dans un pays quelconque. Et moi, je disais, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant pour vous en tant que politicien? Pour quelle partie de notre économie est-ce que c'est intéressant? Dès que c'est pas intéressant pour l'artiste ou les artistes, si ces artistes-là ont pas vraiment un besoin brûlant d'exposer dans des circonstances comme ça, c'est pas moi qui va m'exciter pour organiser ça, là. Non, les artistes ont leurs propres besoins, leurs propres intérêts d'exportation, excuse-moi, parce que j'y crois pas, là. Et d'être les danseuses des compagnies canadiennes ou d'être, de décorer une diplomatie canadienne.
Mais ça, c'est
tellement intéressant que ça.
Non, mais ça, c'est leur seule chance maintenant, c'est de décorer les ambassades canadiennes. Pour moi, c'est de prendre le musée. D'ailleurs, si c'est OK.
Mais tu t'en vas bien loin pour aider le sort des artistes, là, toi. Là. Je trouve que c'est pas nécessaire d'aller si loin que ça. Et tu pousses toujours dans des petits raccoins très bizarres de promotion. Puis je pense pas que ça va aider.
Bon, pour moi, la promotion, c'est la promotion. Et ça marche dans le domaine des disques, ça marche dans le domaine des livres, ça marche dans les films.
Ah ben là, ça c'est encore une autre affaire. Les disques, les livres, les poètes, les artistes, c'est pas la même chose. C'est des économies très différentes. Moi, ce qui est important, c'est que les gens connaissent. D'abord, ce qui est le plus important de tout, c'est que les Québécois connaissent les artistes québécois. Mm-hmm. Ça, d'abord, c'est primordial, oui. Et c'est pour ça qu'on existe.
Je pense que les Québécois savent les artistes d'art visuel québécois.
Non, pas du tout. Pas du tout, voyons donc, toi.
Alors qu'on a quoi, 4 journaux ici à Montréal. Tous les jours, 3 de ces journaux ont des art critiques, des critiques d'art sur leur staff. Ouais. Il y a un qui a 2 critiques d'art sur staff. Dans ce cas,
Donc, ça me dérange un peu là, que tu me parles comme ça, parce que tu sais très bien qu'il n'y a pas assez de visibilité de la scène des arts visuels à Montréal dans nos quotidiens. Excuse-moi, là.
Je suis certain que...
J'ai vu des expositions extraordinaires depuis que je suis là, que personne n'a mentionné, parce qu'il n'y avait pas de place. On leur donne la chance de parler de ci, de ça, c'est tout.
Je peux aller sur Sainte-Catherine et demander à n'importe qui s'ils savent qui est Riopelle. Ils vont dire où.
Ben, voyons, il est mort, Riopelle. C'est assez...
Hello, si j'allais à Toronto... Ils vont dire « Qui? »
C'est pas vrai, ça. T'as pas choisi de bon artiste, quand même. Ils vendent des Riopelle à Toronto. Je vais en voir ce week-end.
Mais de demander à quelqu'un sur la rue, sur Sainte-Catherine, n'importe qui va dire « Oui, je connais Riopelle. » Oui, il va probablement le suivre. Je suis pas un bon amateur de son œuvre, mais je connais le nom.
Oui, mais toi, tu fais une spéculation de sondage, là, parce que tu sais pas.
En Queen Street, who? Non, c'est la chose. Ils connaissent, dans la même méthode que tout le monde ici, connaît Céline Dion. Je pense que probablement la plupart du monde ici, dans la chambre, n'aiment pas la musique de Céline Dion, mais ils savent. Les Québécois sont très fiers de leurs artistes dans n'importe quel domaine culturel.
Écoute, la dernière fois, tu as comparé Pascal Grandmaison à Britney Spears. Maintenant, tu compares... Écoute, Riopelle à Céline Dion, faut que tu arrêtes ça, là.
C'est pas que j'ai fait une comparaison du Britney Spears à Pascal Grandmaison. Oui. C'est que la méthode du promotion. Et si Pascal Grandmaison est assez chanceuse d'avoir quelqu'un qui peut faire le promotion.
Ça marche
de
pas
lui.
Comme ça. Tu peux pas dire aux gens, écoute, dénise-toi donc, Riopelle, tu connais pas ça. Ben non, c'est pas la même chose que dire « Écoute cette musique-là, tu vas bien aimer la chanson de Céline. Ah, c'est vrai, c'est beau. » Non, ça prend tout un apprentissage, l'art contemporain.
Non, ça c'est une chose...
C'est pas vrai, ça prend un apprentissage. Il faut, peut-être pas un apprentissage, mais au moins ça prend une espèce de déclic. Mais ça arrive pas à tout le monde. Ça arrive c'est très restreint, c'est très petit. Mais ce que je crois fermement, c'est que notre public virtuel est beaucoup plus grand que notre public actuel. Que le marché de l'art virtuel là, pourrait être beaucoup, beaucoup plus grand que celui qu'on connaît actuellement.
C'est quand tu limites ton audience. Quand tu dis qu'il y a du monde qui ne sont pas intéressés. Pour moi, je n'ai jamais dit ça. Il y a toujours la possibilité de les intéresser. Et dans ce cas, après que j'ai fait tout ce que je peux... Il dit, non, je suis pas intéressé. Dans ce cas, OK, j'ai fait tout ce que j'ai fait.
Mais on a parlé de ça l'autre fois, Chris. Mm-hmm. Écoute, il y a des gens qui pourraient très facilement être amateurs d'art. C'est ces gens-là que je m'en vais chercher. Oui. C'est pas les gens de me casser la tête sur les mêmes gens, de dire, en vrac, on va essayer de faire venir le plus de monde possible. On le fait une fois par année, deux fois par année, et ils viennent, et il y a une petite proportion de ces gens-là qui vont devenir peut-être des visiteurs assidus. On le fait, ça. Alors, on n'évite pas. Mais ce qui est plus intelligent pour moi, je crois, c'est d'aller chercher les gens qui ne savent pas qu'ils sont des amateurs d'art contemporain, parce qu'il manque 2-3 clous, là, pour comprendre que c'est tout aussi intéressant pour eux. Ils ont la formation, ils ont toute la culture nécessaire pour apprécier ça. C'est ces gens-là qu'il faut aller chercher.
Sans faire une grande chose, comment tu peux les trouver?
Oh, ben là, tu m'en poses une. On essaie de faire... On a des programmes d'éducation. Le 5 à 6, c'est une très bonne idée. De pouvoir venir le soir, d'aller donner des conférences, de parler. Moi, j'ai dit à mon conseil d'administration qu'il y avait une chose qu'on devrait faire, c'est d'abord essayer de créer des amateurs d'art contemporain, d'abord avant d'essayer de créer des amateurs du musée, parce que c'est plus important. Et qu'est-ce que le musée peut faire, lui? C'est une réflexion qu'on fait actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour créer plus d'amateurs d'art contemporain à Montréal? Qu'est-ce qui manque, là? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est des expériences? Est-ce qu'il faut aller les chercher? Est-ce qu'il faut aller chercher les enfants? C'est de plus en plus dur de faire cette année.
Pour moi, c'est
Mais c'est, on pense à ça. Parce que le musée va. Le succès du musée passe par le succès de l'art contemporain, d'abord.
Et pour moi, il y a juste trop des barrières. C'est comme M. Brisbois a dit, réflexion et contemplation, c'est une grande église. De dire, il y a des gens qui sont pas des amateurs d'art, tu dis, OK, il y a 80% de la population que je m'en fous, de laisser tomber les barrières,
non, mais
ouvre
Chris,
les
tu
portes.
Leur dis, viens, regarde, mm-hmm. pense-y 2 minutes, ça vaut la peine.
Exactement.
Ben, c'est pas une barrière, là, de dire, non, viens et regarde.
Le viens, ça, c'est la chose. Mm-hmm. De parler à du monde, viens, comment tu peux attirer du monde pour dire, oh, ça va être assez intéressant pour moi d'essayer de venir. Dans ce cas, c'est pas que, oh, c'est tout ça,
On le fait, mais on veut être un peu plus ciblé. La chose qui, moi, me tracasse, c'est pourquoi les anglophones nous boudent, là. Il y a seulement 15% de nos visiteurs assidus qui sont anglophones.
Il y a 15% du Montréal qui est anglophone.
C'est-tu vrai? Ça, je pense pas.
Oui.
Mm-hmm. C'est-tu vrai? C'est 15% de la population montréalaise est anglophone?
60%. Oui, allophone, celle qui parle.
Oui, ben d'abord, on va passer à ça, mais j'aimerais savoir, est-ce que les gens, les amateurs d'art contemporain anglophones à Montréal viennent au musée?
Probablement pas. Ils pensent qu'il
y a... Non, il y a beaucoup d'anglophones qui viennent. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'anglophones ce soir. Mm-hmm. Mais moi, je crois qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est parce que je croyais que la population était plus forte que 15% quand même.
Moi, je pense que la population est à peu près 15% les anglophones et 15% les allophones.
Mais dans ce cas-là, on est content. Je vais arrêter de me casser la tête. On va continuer à parler français ce soir.
Mais pour moi, de descendre les barrières et...
Mais quelles sont les barrières, là? De dire que c'est un lieu de contemplation ou un lieu de réflexion, c'est pas une barrière, là, Chris.
C'est que...
C'est pas toujours comme ça, d'ailleurs.
Pour moi, je sais que, parce que moi, je suis pas à gêner de venir ici. Mm-hmm. Mais pour moi, quand il y a du monde qui vient à mon galerie, je les parle. Je dis bonjour. Est-ce que je peux vous offrir un café, un jus, une bière, n'importe quoi? Je suis le seul galerie ici à Montréal qui fait ça.
Je suis désolé, quand les gens viennent à l'accueil, on a un accueil très accueillant. On répond à des questions, on leur fait des suggestions, on leur dit ce qui se passe. Là, on est bien aussi accueillant.
C'est l'entrée avant...
Quoique, c'est pas moi qui est à l'accueil, c'est vrai.
C'est l'entrée avant l'accueil. C'est la porte, c'est tout le retard.
Oh, ben là, tu parles d'un problème grave qu'on a, de visibilité dans la rue, architecturale. Là.
Non,
ça,
pas architectural.
On cherche une solution, mais on l'a pas.
Si tu mets des grands headlines, « Naked women dancing at the museum », il y a une monde qui va rentrer. Il y a bien une monde qui va être déçus. Mais
le fait, ça, mais on veut pas vraiment faire la promotion de ces événements.
Pour moi, c'est...
Non, écoute, je veux mettre une enseigne qui dit musée d'art contemporain dans des lettres, pareil comme l'UQAM. Mm-hmm. On parle dessus depuis des mois, on cherche l'argent, on cherche la formule parfaite, mm-hmm. là, pour que quand on passe ici, on se pose pas de questions, on sait que c'est un musée d'art mm-hmm. contemporain. Il y a des lettres qui sont aussi grandes que mon corps, là, sur le mur, qui disent musée d'art contemporain. Ça doit être un musée d'art contemporain. Ouais. Mais comme j'ai dit à mon conseil d'administration, ça, c'est moins intéressant quand les gens savent pas ce que c'est, comme cette famille que j'ai croisée là en arrivant, qui ont dit bon, c'est un musée de cochonnerie, un musée d'art contemporain, c'est forcément un musée de cochonnerie. C'est ça qu'il faut changer pour savoir c'est quoi un musée d'art contemporain. C'est pas mal basic là, c'est, on a du travail à faire là-dessus. Mais je trouve que c'est plus important et plus intelligent de faire le travail, de faire venir les gens qui risquent d'abord d'aimer ça. Parce qu'ils savent pas qu'ils sont amateurs d'art contemporain, mais ils sont.
Je suis complètement d'accord avec ça, mais d'avoir des gros headlines, n'importe quoi, juste pour retenir le monde.
Comme si on était un film, là.
Oui, exactement, comme un film, comme Céline Dion. Comme n'importe qui.
Incroyable, épouvantable, j'en reviens pas. Jérôme Delgado, la presse, sur le mur comme ça.
OK. OK, une chose, Maria. Alors que maintenant, il y a bien du monde plus que chez moi. Il y a 2 micros et J'arrête personne.
Non, mais vous avez un peu compris. Chris, c'est la partie 2 du même discours. Mmh. Chris croit qu'on devrait vendre l'art contemporain, vendre le musée, pardon, comme on vend des patates, comme on vend des films, comme on vend des danseuses sur la main. Je suis pas d'accord avec ça, là.
Ça, c'est la raison que t'es dans le musée.
C'est pas la raison que je suis là. Le conseil d'administration me dit « Ah, oh, ben ça, c'est un racoleux. Hey, écoute, faudrait qu'on lui donne la job parce que lui, il va faire venir du monde comme un fou. Il va mettre des headlines partout sur le musée.
Non,
c'est pas ça.
T'as parlé du buzz et si c'est impossible d'avoir un buzz ici pour des artistes québécois, c'est impossible à les envoyer. Faire une buzz, n'importe quelle méthode, comment. Et dans ce cas, tout le reste va suivre des mondes qui savent pas qu'ils sont pas des amateurs des arts, va venir. Celles qui sont pas des amateurs d'art va pas lire les articles, mais de créer une buzz que tu as parlé avant, qui est nécessaire pour pousser les artistes québécois plus loin que ici, d'avoir ce musée-ci le plus top que tu peux faire dans ton carrière, it annoys the hell out of me.
What does?
This is the top you can get as a Québécois artist.
Doesn't annoy me. Moi, je trouve ça génial que ce soit nous qui pouvons faire ça. Oh,
hello, if I was si j'étais un artiste québécois.
Il faut avoir des lieux comme ça.
Non, c'est pas que je veux arrêter les lieux comme ça. Mais moi, je préfère d'avoir une idée que oui, les artistes québécois peuvent avoir une exposition au MoMA, au Tate. LA County Museum.
Absolument. Mais il faut commencer. Actuellement, il y a deux Canadiens qui exposent à Londres. Il y a Jeff Wall, qui est à la Tate Modern, une exposition extraordinaire, énorme. Et il y a Rodney Graham à la galerie Listen, dont tout le monde me parle. T'aurais dû voir ça, mon Dieu, mais non, je ne vais pas à Londres tous les week-ends.
Québécois.
Ben, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche pour nous actuellement. Ça, c'est une solution. Ça a pu marcher pour ces artistes-là parce qu'ils sont allés chercher. Ils ont trouvé leur propre formule pour se trouver un public international. On la cherche toujours, nous. Et comme je t'ai dit, la dernière fois, je vais répéter, c'est pas ma responsabilité de faire la promotion de l'art québécois à l'étranger. C'est ma responsabilité de faire la promotion de l'art québécois ici au Québec. Mais... parce que c'est les Québécois eux-mêmes, par leur enthousiasme, qui vont faire la promotion de leur propre culture à l'étranger.
OK, mais de créer une buzz ici, c'est assez facile. Et pour moi, it's not rocket science. Et dans ce cas, avec ce buzz, le musée.
Quand jusqu'à un certain point, si c'est si facile que ça, dis-moi, est-ce qu'on fait, parce que ça, déjà, c'est un commencement, là. Et j'aimerais, c'est pas une excuse non plus. On a des priorités. Mm-hmm. Une des choses que je crois qui manque absolument pour nous, comme outil, c'est la possibilité de présenter notre collection permanente de façon complète sur la place publique pour que les gens puissent se faire leur éducation en faisant un trajet, en marchant par des galeries et dire « Oh mon Dieu, j'ai vu 40 ans d'art à Montréal et ce qui a intéressé les Montréalais sur la scène internationale. » Et je me sens assez avisé, merci. On peut pas faire ça.
Okay. La prochaine fois que
ça crée un buzz. Ça.
Oui, ça crée un buzz, mais aussi avec Place à la magie. Où j'ai lu quelque part que c'était nécessaire quand il était créé qu'il reste comme il était pendant 3 ans.
Non, je pense que c'était même plus que ça. Et c'est parce que c'est un investissement du ministère. On l'a demandé. Uh-huh. Et c'est une exposition qui a coûté cher à monter. Vous avez vu les meubles là, pour Bordua? Ça vaut la peine de faire ça?
Est-ce que ça sera possible la prochaine fois que la collection permanente change, que ça ne reste pas comme un musée d'archéologie? J'allais une fois, j'allais une deuxième fois. Puis pendant 3 ans.
Mais non, Chris.
Change la collection. Si tu veux créer une buzz.
On fait ça constamment. Dans cette partie-là, on ne l'a pas fait pour quelques années, pour des raisons très importantes. C'est-à-dire qu'il faut quand même donner un peu de place à la fondation de l'art contemporain, l'art moderne québécois. Et c'est ce qu'on a fait. C'est un peu, malheureusement, on n'a pas assez d'espace parce que nous, notre public vient pour voir les nouveautés, les nouvelles expositions et de voir tourner les choses.
Peut-être
mais on n'a pas assez de place pour faire déployer toute sa collection et d'être le Kunsthalle qu'on a voulu qu'on devienne en même temps. Mais, on se cherche une solution
idée,
à ce problème-là.
C'est peut-être...
Mais la solution va être justement un musée d'archéologie. Je m'excuse, mais je ne suis pas pour changer l'histoire de l'art québécois.
Non.
Parce que toi, tu trouves ça ennuyeux. Là. J'espère que c'est pas ça que tu me dis.
Non, ce que je dis, c'est d'avoir une exposition qui reste comme permanente, qui est comme dans, en ombre, et il ne change pas. Et pour moi, d'avoir, vous parlez du, 90% de la collection du musée sont pas visibles.
Plus de 98%.
Dans ce cas, chaque année, peut-être s'il y a du espace, s'il y a une personne qui peut faire chaque 6 mois, change la collection permanente, le Place à la Magie. Alors que chaque 6 mois, chaque année...
On fait plus souvent là, que ça, la collection permanente. Tu vas voir, on a 10% de nos œuvres sur papier qui sont... au mur actuellement. Mm-hmm. On vient juste d'ouvrir cette exposition-là. Et Place à la Magie, ça s'en va l'année prochaine. Et puis nous, on va faire autre chose. D'ailleurs...
I can't wait.
D'ailleurs... ben non, je te dirai pas, ça va être une surprise qu'on va faire. Hein. On n'en parlera pas. Bon.